second poteau.
La voix du handisport.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au studio 231 dans Voix du handisport, votre émission radiophonique traitant des handisports. Aujourd'hui, nous aborderons un handisport qui a subitement émergé durant l'année 2024. Je veux bien évidemment parler du cécifoot. Peut-être avez-vous eu la chance d'en profiter pendant les Jeux paralympiques de Paris. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, nous allons en parler aujourd'hui. Au micro, aujourd'hui, Étienne Patrux, et au sommaire de cette émission, nous vous proposerons d'écouter une chronique qui retracera pour vous l'histoire du cécifoot et ses règles, proposée par mes soins. Une interview de Daouda Gassama, un athlète de cécifoot. Bonjour, merci d'être avec nous parmi nous. Comment allez-vous ?
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux d'être avec vous sur ce plateau, dans cette émission. C'est un honneur pour moi de venir parler de moi, du cécifoot, de ce sport, de son e-sport. J'ai hâte de partager mon expérience et de parler de ça avec eux.
Bah c'est super, j'espère que ça vous fera plaisir. Et surtout, n'hésitez absolument pas à intervenir quand vous le souhaitez et à réagir sur n'importe quoi qui sera dit durant cette émission. Chaque interaction sera la bienvenue. Vous serez bien mieux présenté par Raphaël Dié tout au long d'une interview. Et pour finir, David Vaz est allé à votre rencontre pour tester votre culture handisportive sur le cécifoot. Ce que vous venez d'entendre, c'est ce qu'entend Daouda. Le cécifoot a vécu un tournant historique lors de l'année 2024. Longtemps resté dans l'ombre médiatique, ce sport est devenu l'un des symboles les plus puissants de l'inclusion et de la performance. Vous vous souvenez sans doute, lors des Jeux paralympiques de Paris, même peut-être que vous y étiez. Voici son histoire, de ses origines jusqu'à son développement récent, que nous connaissons mieux. Cependant, son histoire commence bien avant les projecteurs de la Tour Eiffel. Selon le Comité international paralympique, le cécifoot aurait été pratiqué en Espagne dès les années 1920, avant que le Brésil formalise le jeu à 5 joueurs par équipe dans les années 1960, et organise un premier tournoi national en 1974. Après s'être développé au Brésil, le cécifoot a été introduit en France par la Fédération Nationale des Sports et Loisirs pour Aveugles et Amblyopes, ou la FNSLAA. Les personnes au sein de cette fédération qui ont créé le cécifoot en France sont Alain Silou, Joao Pinto, Hubert Benadi et Bachir Kheroumi. Cette fédération a été créée pour la promotion des sports pour les personnes déficientes visuelles. Elle est créée en 1987 en France grâce au club AS Cécifoot de Saint-Mandé. Le cécifoot a été reconnu comme une discipline sportive par la Fédération internationale des sports pour personnes aveugles, ou IBSA en anglais, en 1996, qui a établi des règles pouvant être appliquées dans le monde entier. L'année suivante, les premiers championnats de cécifoot organisés par l'IBSA se déroulent à Barcelone en Espagne pour l'Europe et à Asunción au Paraguay pour les Amériques. En 1997, le premier championnat mondial se déroule au Brésil. Voici quelques dates importantes pour vous. En 2004, aux Jeux paralympiques d'Athènes, le cécifoot est devenu officiellement un sport paralympique. Le cécifoot a été l'un des 7 sports choisis pour les premiers Jeux paralympiques africains de 2020 qui se sont déroulés à Rabat au Maroc. La Fédération internationale des sports pour personnes aveugles est la fédération de référence. En France, la Fédération française des handisports a reçu la délégation du 31 décembre 2016 du ministère des Sports pour organiser la pratique du cécifoot. Si le cécifoot était déjà connu des initiés, Paris 2024 a provoqué un véritable choc culturel et médiatique. Plusieurs facteurs expliquent ce succès sans précédent. Grâce à un cadre iconique, les matchs se sont déroulés au stade Tour Eiffel, au Champ de Mars. Jouer sous l'un des monuments les plus célèbres du monde a offert des images spectaculaires qui ont fait le tour de la planète. Sa aula silencieuse, le cécifoot impose un silence absolu au public pour que les joueurs entendent les clochettes de l'intérieur du ballon. À Paris, le public a inventé la aula silencieuse, des milliers de personnes levant les bras en chœur sans faire de bruit, ce qui créa une atmosphère hors du commun et respectueuse. Mais par-dessus tout, l'exploit des Bleus. L'apothéose a été sportive. En finale, l'équipe de France, menée par sa star Frédéric Villeroux, a battu l'Argentine au tir au but. Événement historique. Depuis 2004, le Brésil avait remporté toutes les médailles d'or. La France est devenue la première nation à briser cette série de résultats. L'après 2024 montre que l'engouement n'était pas une parenthèse éphémère, mais un héritage bien réel. Avec une hausse des licenciés, la Fédération française handisport a enregistré une augmentation d'environ 17% des nouveaux joueurs de Cécifoot un an après les Jeux. Et ce n'est pas prévu de s'arrêter là. Après cela, nous allons écouter l'interview de Raphaël Dié pour revenir sur le parcours de Daouda Gassama, notre invité.
Alors, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans ce studio Daouda Gassama. Bonjour Daouda et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Raphaël, merci beaucoup à vous.
Si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce que vous êtes joueur de Cécifoot au club Bondy Cécifoot en situation de handicap. Nous avons beaucoup de questions à vous poser autour de cette table, mais avant cela, quelques mots sur votre parcours qui est pour le moins exceptionnel, même si nous n'aurons malheureusement pas le temps d'aborder tous les aspects. Vous êtes né en 2003 à Bamako, au Mali. Atteint depuis la naissance d'une maladie incurable, le glaucome, vous perdez totalement la vue en 2016. En 2022, vous arrivez en France pour poursuivre vos études à l'université Paris 8. Vous êtes aujourd'hui étudiant en sociologie et vous continuez à pratiquer le cécifoot, un sport que vous aviez déjà commencé dans votre pays d'origine. Vous êtes aujourd'hui classé en catégorie B1, qui correspond aux personnes non-voyantes. D'ailleurs, Étienne reviendra plus en détail sur ces catégories dans la chronique qui va suivre. Au-delà du sport, vous êtes aussi très engagé. Engagé pour l'inclusion, engagé pour la cause des enfants, vous avez aussi une autre passion, la musique. Notamment le piano et les percussions africaines comme le djembé. En mars 2025, vous remportez le titre de champion de France de Cécifoot Torball avec l'équipe de l'université Paris 8. Pour expliquer rapidement à nos auditeurs ce qu'est le Cécifoot Torball, c'est une discipline qui combine logiquement le Cécifoot et le Torball, un sport collectif à trois joueurs qui se jouent à la main. Le Cécifoot reste encore un sport trop peu connu du grand public, alors pour commencer Daouda, pourquoi avoir choisi ce sport ?
Déjà, merci beaucoup, merci pour ces mots sur mon parcours. J'ai choisi de faire du Cécifoot car pour moi, faire du sport, c'était évident depuis que j'étais à bas âge. Et faire du sport, c'était quelque chose qui me passionnait. Et je ne connaissais pas le Cécifoot d'abord lorsque j'étais à l'école primaire. Le Cécifoot a été introduit dans notre école par l'entremise de Français qui sont venus au Mali et qui avaient pour passion d'aider les publics fragiles. Et ils sont venus au Mali en 2013 créer ce sport et une équipe au sein de l'Institut national des aveugles du Mali, l'école dans laquelle j'ai fait ma scolarité, et à Bamako. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert le Cécifoot. Et je me suis dit, pourquoi ne pas tester, pourquoi ne pas tenter ma chance dans ce sport qui m'était nouveau à cette époque. Et c'est comme ça que m'est venue ma passion pour le Cécifoot. Mais bien avant, le football était quelque chose que je suivais de très près. Je suivais l'actualité du football à la radio, je suivais des émissions télévisées là-dessus. Et faire du Cécifoot, pour moi, c'était quelque chose qui était limite à mon niveau, je dirais obligatoire, parce qu'en fait, j'étais en fait passionné du football. Et découvrir ce sport qui était fait pour les personnes en situation de handicap, du coup, en fait, c'est ce qui m'a orienté vers ce sport. Et c'est comme ça que j'ai intégré l'équipe qui était mise en place à l'époque, en 2013. Et de 2013 à 2015, j'ai progressé. J'ai pris mes marques, en fait, j'ai pris mes repères. Et jusqu'en 2018, l'année où j'ai un peu arrêté parce qu'en fait mes activités scolaires et extrascolaires devenaient intenses et j'avais plus trop le temps de venir sur les sciences. Et c'est en 2022, arrivé en France, que je me suis à nouveau consacré à ce sport en intégrant un club dans le 94 qui est l'AS Cécifoot Saint-Mondé. Et jusqu'en 2024, l'année où j'ai eu à faire un transfert pour aller à Bondy. Et c'est à Bondy que je voulais toujours maintenant. Et c'est comme ça que j'ai découvert le cécifoot.
Ok, super. Et est-ce que vous avez eu un parcours sportif avant le cécifoot ou alors c'est le seul sport que vous ayez pratiqué?
Avant le cécifoot, non, j'ai pas eu à faire un autre parcours sportif. Le cécifoot a été mon premier sport, le premier sport que j'ai eu à pratiquer. Mais après, j'ai fait une passion pour la salle de sport, la musculation. Bon, même si j'ai pas trop progressé là-dedans, mais je faisais cela un peu de 2023 à 2025. Le cécifoot a été le seul sport que j'ai eu à pratiquer.
Bah c'est super, ça, en fait c'est un coup de cœur.
Oui, exactement.
Mais est-ce que le cécifoot, est-ce qu'il a changé votre vie au quotidien?
Le cécifoot a beaucoup changé mon quotidien. Déjà, avant d'arriver en France, j'étais quelqu'un, c'est vrai que j'étais autonome lorsque j'étais à l'Institut National des Aveugles du Mali, à Bamako. Mais j'avais cette difficulté de me déplacer en dehors de l'école au Mali. Dû au fait que les infrastructures n'étaient pas adaptées, mais j'avais quand même cette dépendance. J'étais dépendant à mes frères, à la famille, dans mes déplacements, dans le cadre de ma vie associative, aussi concernant mes déplacements pour aller à l'école, ainsi de suite. Mais arrivé en France en 2022, avec mon intégration dans le club de Saint-Mandé, grâce à un ami que j'ai connu à la fac, à l'Université Paris 8, j'ai appris à me déplacer tout seul dans les transports en commun, à utiliser la canne. Et cela a été rendu possible grâce au cécifoot, je dirais. Parce qu'en fait, dans le cécifoot, on apprend à se repérer dans l'espace, on apprend à marcher, à faire des mouvements tout seul, pour mieux s'imprégner des conditions réelles de l'environnement au sein duquel en fait on se trouve. Et cette expérience en fait a été rendue possible grâce également à l'aide de mes coéquipiers, parce qu'en fait mes coéquipiers ont été les premières personnes en fait qui m'ont montré les techniques de base en locomotion, comment bien tenir une canne, comment marcher en ayant ces marques concernant la marche parallèle, la coordination avec les pieds lorsqu'on a une canne pour se déplacer, etc. Et du coup, en fait, le cécifoot, pour moi, ça a beaucoup, beaucoup changé. Et de nos jours, je peux même dire que je peux me lancer en fait, des défis que je serais capable de relever grâce au cécifoot, car l'autonomie, pour moi, l'autonomie m'est facile grâce au cécifoot. Parce qu'en fait, là où j'habite, c'est un logement classique. En fait, c'est un logement qui n'est pas adapté aux personnes en situation de handicap. Mais j'ai eu ce sens d'adapter en fait mon logement, mon lieu de vie à moi. Car en fait c'est le cécifoot en fait qui m'a donné en fait ce sens qu'en fait c'est marque pour l'autonomie et dans la vie quotidienne.
Bah c'est super inspirant. En tout cas, je vais laisser la parole à Étienne pour la suite de sa chronique et je reviendrai vers vous pour des questions un peu plus poussées après la chronique.
Comme disait Raphaël, pour que vous puissiez mieux profiter de cette interview de Daouda Gassama proposée par Raphaël, je me dois de vous expliquer les principes et les règles du cécifoot. Donc le cécifoot est un handisport pratiqué par les athlètes déficients visuels, donc des malvoyants ou des non-voyants en loisir ou en compétition. Il faut savoir qu'il existe aussi deux catégories, la catégorie B1 pour les non-voyants donc, et la catégorie B2 ou B3 pour les malvoyants. La catégorie B1, qui englobe les non-voyants, correspond aux joueurs aveugles ou ayant une faible perception lumineuse. Les joueurs évoluent avec des patchs oculaires ou un bandeau sur les yeux. Et les B2 ou B3, donc les malvoyants, ont un niveau, enfin jusqu'au niveau international, l'acuité visuelle du meilleur œil après correction ne doit pas dépasser un dixième ou excéder 20 degrés de champ de vision. Cependant, seule la catégorie B1 est admise aux Jeux paralympiques et malheureusement, il n'existe pas de compétition féminine. Le cécifoot s'inspire du football en suivant les règles de la FIFA, avec des aménagements pour tenir compte du handicap des joueurs. Par exemple, il n'y a pas de hors-jeu. Les règles sont assez simples. Au cécifoot, il faut avoir 15 ans minimum pour participer. Elles sont quasiment identiques entre la catégorie B1 et la catégorie B2-B3. Les fautes, comme au basketball, peuvent être individuelles ou collectives. En catégorie B1, les participants jouent sur un terrain de handball qui mesure 42 mètres de long sur 22 mètres de large. Il est bordé de barrières latérales. Le match oppose deux équipes, composées chacune de 4 joueurs de champ aux yeux bandés, d'une part pour assurer une stricte égalité en cas de présence chez certains d'une vision résiduelle, d'autre part pour protéger justement cette vision résiduelle. Il y a 4 remplaçants et un gardien de but voyant. L'équipe compte aussi un préposé au guidage qui se trouve derrière le but adverse et indique à l'attaquant la position de la cage. Les joueurs utilisent des codes verbaux comme « j'ai » qui indique que le joueur a le ballon, ou encore les joueurs doivent crier « voy » qui signifie « j'y vais » quand ils chargent sur un porteur de ballon pour éviter les chocs. En catégorie B2 ou B3, les joueurs ne sont pas bandés. Chaque équipe doit compter impérativement au moins 2 joueurs classés B2 sur le terrain durant toute la durée de la partie. Les règles et les codes verbaux, en revanche, sont les mêmes. Et pour finir, la durée de jeu est entre 2 x 15 minutes à 2 x 25 minutes selon les matchs. Il est temps pour moi de finir ma chronique et de vous laisser avec Unison, une musique exclusive de Isaac, notre ingénieur du son. J'espère que cette avant-première vous aura plu. Si oui, vous pouvez la retrouver sur Instagram, sur le compte isaac.wave, c'est-à-dire izak.wav. Comme je l'ai dit dans ma chronique et aussi durant la présentation de Raphaël pour vous, Daouda, vous êtes en catégorie B1. Cependant, avez-vous été avant en catégorie B2 ou B3 durant vos années d'entraînement ?
Durant mes années d'entraînement, j'ai toujours été en catégorie B1. C'est vrai qu'avant, j'étais malvoyant. Je voyais un peu avec un œil et ma vision s'est réduite de manière progressive. C'est-à-dire que je n'ai pas tout de suite perdu la vue. Ça s'est fait au fil du temps. Et c'est en 2016 que j'ai été en cécité totale. Mais comme au Mali, il n'y a qu'une seule catégorie. En fait, il n'y a qu'une seule équipe. Contrairement en France, où on a un championnat avec des clubs. Et du coup, en fait, j'ai commencé en catégorie jeune, avec les jeunes. Et là-bas, on portait des masques. Du coup, ça revient à la même chose en fait. C'était toujours la catégorie B1 et une seule équipe, et ainsi de suite. Donc, arrivé en France ici, ça a été le cas vu que j'étais déjà en cécité totale.
Ok, bon bah c'est parfait. Et vous pensez que ça vous a été utile de mettre des bandeaux plus tôt ?
Oui, c'est utile. C'est utile dans le sens où ça maintient l'équité entre les joueurs parce qu'il y a certains, comme vous l'avez si bien dit, qui ont des restes visuels. Et du coup, en portant le masque, cela garantit l'équité entre les joueurs. Et moi, personnellement, je trouve que c'est aussi protecteur parce qu'il y a souvent des chocs qui peuvent survenir. Et quand on a le masque, ça peut réduire l'impact du choc qu'on peut avoir. Du coup, c'est bien en fait de porter le masque, je trouve.
Je vais reprendre le micro pour parler. Je vais reprendre l'interview avec vous, Daouda, et je vous propose qu'on parle un peu tous les quatre sur ce sujet-là, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop entendu David depuis le début de l'interview, et ce serait l'occasion. Surtout que je vais partir sur des questions un peu plus axées sociologie, donc ce sera l'occasion pour nous de rebondir sur ce qu'on dit. Donc je vous pose la question, vous Daouda, que répondez-vous aux personnes qui pensent encore que le cécifoot est entre guillemets moins impressionnant qu'un sport valide ?
Je réponds à cette question de manière à ce que ces personnes elles sachent que c'est une vision qui n'est pas forcément je dirais pas réel, mais en vrai, penser que le cécifoot n'est pas impressionnant, c'est parce qu'en fait on n'a pas réellement assisté à beaucoup de séances, ou plutôt on n'a pas eu à voir de séances d'entraînement ou de matchs de cécifoot. En fait, le cécifoot, il est impressionnant par plusieurs aspects. Déjà, il y a le côté, il y a le fait qu'un match se passe sans que les uns et les autres ne se voient. Du coup, en fait, on est sur un terrain de cécifoot avec un ballon qui fait du bruit et où chacun porte un masque sur le visage. Et là, c'est la communication qui est la base et c'est la communication qui nous permet de faire ce jeu sans se blesser ou sans grand risque de se blesser. Et grâce à la communication, on arrive à produire du beau jeu. Je vous dis en fait si c'est bien possible par exemple de faire des phases de jeu, mais c'est impressionnante en fait dans le cécifoot aussi, comme des sombreros, des petits ponts, des grands ponts, etc. En fait c'est des phases de jeu qui sont aimées par les jeunes, les enfants et même les passionnés de foot en fait. Et dans le cécifoot c'est bien possible de faire ça en fait. On a des joueurs très techniques, des joueurs qui jouent mais de façon impressionnante en fait. Donc pour moi, je pense que c'est à cette personne, je les invite en fait de soit venir à Bondy ou soit d'aller sur internet et visionner un peu les matchs de cécifoot ou d'entraînement.
Oui, parce qu'en plus, je pense que même, je dirais, c'est même plus, c'est plus impressionnant qu'un match de foot classique, parce qu'en plus de ça, il y a un silence absolu.
Exactement.
C'est comme...
Puis ça ramène un peu aussi une signification, puis ça a vraiment un impact.
Ça, oui, ça a un impact à un propos.
Ouais, c'est ça. Exact. Ça ramène un message.
C'est ça, c'est ce message d'inclusion qui est passé, c'est-à-dire, les personnes en situation de handicap, elles aussi savent jouer au foot. Il y a un sport pour elles et elles s'y intéressent. Et c'est cela qu'il faut voir et qu'il faut surtout mettre en avant.
Ok. Parce que c'est vrai que du coup, la société a, on va dire, un regard et un avis sur le handisport. Qu'est-ce qui devrait changer en priorité, on va dire, pour améliorer la place du handisport dans la société ?
Pour améliorer la place du handisport, pour moi, ça doit passer par des séances de sensibilisation. Il faut beaucoup sensibiliser sur le handisport, sur l'importance de valoriser le handisport. Et pour moi, cela passe par l'implication des uns et des autres, c'est-à-dire les personnes en situation de handicap elles-mêmes. Et en plus de cela, on demande également en fait l'implication des autorités, parce que en fait les autorités étatiques ont leur part à prendre. Et quand les autorités s'intéressent à ça, au handicap, au sujet du handicap et au sport et au handisport, c'est plus un levier d'épanouissement pour ce milieu, en fait, pour ce domaine. Et pour moi, le regard de la société peut vite évoluer si chacun décide de s'impliquer davantage à promouvoir le handisport, à promouvoir le talent qu'il peut avoir dans le handisport et surtout en fait à parler autour, enfin à parler des enfin de du enfin du des handisports dans les lieux publics. Je parle de là en fait dans les écoles, etc. en fait en famille. Et du coup, c'est comme ça qu'on peut réussir en fait à faire bouger les lignes. Et pour moi, c'est vrai que c'est une tâche qui peut paraître difficile, mais quand on analyse la situation, je me dis que ça peut être facile grâce au concours des uns et des autres.
Oui, c'est ça, c'est facile. C'est un peu, on en parle autour de nous, on en parle.
Exactement.
Puis comme pour vous aussi, ça vous a permis aussi de découvrir le CC Foot, du coup.
Oui. Donc c'est ça, justement.
Ok. Et est-ce que vous avez un exemple, par exemple, ou une anecdote sur justement une personne qui avait un regard un peu trop fermé sur ça, sur le CC Foot?
Bah oui, j'ai une anecdote. Bah par exemple, en fait, je me rappelle que, enfin, lorsque j'étais au Mali, il y a une personne, c'est une connaissance à nous, qui a entendu parler de ce sport, qui a entendu parler qu'il existe du football pour les déficients visuels. Et pour cette personne, il s'est dit que, enfin, elle, en fait, je précise que cette connaissance, elle est voyante. Et pour elle, c'est pas possible que les personnes en situation de handicap, les non-voyants, puissent marquer de but.
Oui, elle n'était pas informée.
Exact. En fait, elle n'était pas très informée. Et lorsqu'on lui a passé cette information, bah, en fait, pour elle, c'était pas possible que pendant la phase, un match, que les non-voyants lui marquent de but. En fait, je rappelle qu'il est gardien de but. Et en fait, il est venu tester un jour avec nous. Lui qui disait que les non-voyants ne peuvent pas lui marquer de but. Bah, figurez-vous que les buts ont coulé de partout, en fait. On a marqué de partout. Et lui, il a finalement compris que bah, c'est un sport qui est différent. En fait, c'est un sport qui est différent. C'est vrai que lorsqu'on est à l'extérieur, on peut avoir un regard qui est différent sur le CC Foot. Mais en essayant, ou plutôt en le testant, c'est aussi en fait une réalité qui est tout autant différente, quoi. Et donc, c'est comme ça que bah, cette personne, on a réussi à la sensibiliser et qu'elle a compris que bah, c'est en fait marquer le but, c'est facile. Quoi. C'est, en fait, c'est comme dans le foot valide.
Et oui. Et du coup, pour revenir un peu sur, sur cette question, est-ce que vous avez déjà ressenti des préjugés ou des... Oui, envers votre sport ou envers votre handicap?
Bah oui, ressenti, bon, je dirais que, bon, je dirais qu'en fait, bon, c'est plus les personnes qui pensent que bah, faire du cécifoot, enfin, du football plutôt, pour les déficients visuels, c'est quelque chose qui, enfin, qui peut être classé dans l'ordre des choses irréalisables. Bon, c'est plus en fait une idée, ça c'est une idée reçue et bah déjà c'est en fait c'est ce qui relève de la méconnaissance du domaine, parce qu'en fait il y a Etienne qui l'a mentionné dans sa présentation, le cécifoot fait partie des Jeux paralympiques, il y a des équipes nationales qui sont créées, il y a des clubs qui sont créés, des championnats un peu partout au monde. Et dire cela, penser cela, c'est parce qu'on n'est pas informé, en fait. Donc, c'est plus face à cela que on a, c'est plus sur ça que les gens ne sont pas informés. Mais à ce niveau, il y a de grandes améliorations qui sont faites, déjà au Mali, parce qu'en fait, il y a des sensibilisations qui sont menées par l'équipe qui est en place. Et ici, en France, on a aussi la chance d'intervenir de temps en temps dans les entreprises, dans les écoles, à travers le club, enfin, avec le club, sensibiliser sur cette question. Et du coup, en fait, parler du handicap, du cécifoot, des sports, des handisports. Et c'est là à fortement contribuer à réduire ces préjugés qui peuvent exister. Quoi.
Ok. Comme vous l'avez bien dit, c'est vrai qu'heureusement, ça évolue. Le regard, il évolue un petit peu, notamment avec les Jeux paralympiques de 2024. Et donc, c'est quelque chose de bien. Et j'en espère que ça va continuer. Etienne, je te repasse la parole.
Ce qu'on a vu, c'est pas prévu de s'arrêter là.
Exactement.
Mais dans cette succession d'interrogatoires et de questions, il est temps de s'ouvrir à nos auditeurs. En lançant la question du public.
La question du public.
La question du public.
La question du public.
Donc, on lui laisse le temps de s'installer et puis on va le laisser se présenter. Bonjour, comment t'appelles-tu ?
Bonjour, je m'appelle Andy Hutin. C'est un honneur de vous rencontrer, monsieur...
Daouda Gassama.
Daouda Gassama. Excusez-moi.
Du coup, vous avez eu le temps d'assister à l'émission en étant dans le public et vous aviez une question à poser à M. Daouda Gassama, si c'est bien ça.
Exactement.
Allez-y.
Alors, j'étais très curieux, M. Daouda. Comment situeriez-vous le niveau du cécifoot par rapport à un niveau de football ou d'un autre sport d'ailleurs? Parce que je me demande vraiment... Si vous transposiez votre niveau dans un autre sport, est-ce que vous performeriez ou vous pensez que ça n'a vraiment rien à voir et que c'est incomparable?
Merci pour cette question. En fait, à ce niveau, je pense que le cécifoot est un handisport déjà, mais c'est aussi un sport qui peut être comparé à d'autres sports dans le sens où on performe de la même manière dans le cécifoot que dans d'autres sports. C'est-à-dire, en fait, déjà, il faut savoir que c'est un sport qui est très, très intense. En fait, c'est quand on joue, on fait du cécifoot, on monte, on descend, on prend de la vitesse dans les phases de jeu. Et ça va tellement vite que souvent, en fait, on peut être vite fatigué si l'on ne maîtrise pas, en fait, on n'arrive pas à gérer ses émotions. On n'arrive pas en fait à gérer sa manière de la cadence dans laquelle en fait on mène le jeu et donc en fait pour moi faire du cécifoot c'est comme faire du foot normal, en fait c'est comme faire du foot normal, c'est au même niveau. Personnellement, je trouve que c'est en fait c'est la même chose qu'en fait. C'est comme si on faisait du foot valide. Parce que c'est un sport qui se joue en temps arrêté. Et comme je l'ai mentionné, c'est très intense comme sport. Et du coup, ça demande les mêmes efforts physiques que dans d'autres sports. Et c'est même parfois beaucoup plus intensif, hein, parce qu'on est... on n'est pas que sur du physique. Il y a de la concentration, il y a aussi de la concentration. Il faut beaucoup se concentrer, écouter ses coéquipiers, respecter les différentes règles de communication qui sont suggérées. Donc, on fournit beaucoup plus d'efforts.
Okay, donc, c'est beaucoup plus mental et stratégique.
Exactement, il y a.
Okay. Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à cette question.
De rien.
Merci Andy d'être venu poser votre question. J'espère que cette question aura pu répondre à une question posée par de nombreux auditeurs et qu'elle vous aura plu aussi, Monsieur Daouda Gassama.
Oui, absolument.
c'est parfait. Et nous allons retourner avec Raphaël.
J'avais une question. Vous avez parlé de la communication sur le terrain et c'est vrai qu'on n'a pas trop abordé le sujet. Mais il y a un guide sur le terrain qui assure la communication. Pouvez-vous nous en dire plus et expliquer le rôle de ce guide ?
Le guide, c'est une personne qui est voyante et qui se place derrière les cages adverses. Chaque équipe possède un guide et derrière les cages, il se place là-bas pour donner des indications aux attaquants. Parce que le terrain de Cécifoot est divisé en trois parties. Il y a la partie du gardien, le gardien... qui est obligatoirement voyant, communique avec les défenseurs. Et après, au milieu du terrain, il y a les joueurs qui sont placés auprès des balustrades sur chaque côté. Dans cette zone, c'est le coach qui est derrière les barrières qui parle à ses joueurs. Et donc, on a la dernière zone qui est la zone des 12 mètres, des dernières 12 mètres. Et c'est dans cette zone que les guides sont autorisés à parler à ces attaquants. Ils donnent des indications du type « tu es à 12 mètres, tu es excentré gauche, tu peux tirer maintenant, et face à toi, il n'y a qu'un joueur », et ainsi de suite. Donc c'est à l'aide de ces indications que les attaquants ajustent leur manière de jouer. En fait, ils décident de faire la passe à un coéquipier, soit ils tirent comme le demande le guide. Donc, c'est comme ça que se passe. C'est comme ça que le guide joue son rôle, en fait, dans les entraînements, lors des matchs, dans les compétitions, etc.
Donc, il est complètement indispensable.
Exactement, il est complètement indispensable.
Eh ben, merci Daouda d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci.
Et maintenant, laissons place à David Vaz et son reportage.
Afin de sonder les Français sur leur connaissance du handisport et du cécifoot, je me suis dit que la meilleure manière serait d'interroger directement nos concitoyens. Pour ce faire, je me suis baladé ici dans nos studios et interrogé de nombreuses personnes traînant ici et là. Tout d'abord, je leur ai demandé s'ils connaissent le handisport, et que fut ma surprise d'avoir une grande majorité de...
Oui.
Oui.
Oui, oui, tout à fait.
Et quelques rares...
Non, jamais.
Mais ceci s'explique notamment par le succès historique des Jeux Paralympiques de Paris, dont l'audience a atteint, je le rappelle, plus de 50 millions de téléspectateurs au total. Je leur ai ensuite demandé la même chose pour le cécifoot, et ce fut cette fois un poil plus divisé dans leur réponse.
Oui, j'en ai entendu parler. Effectivement, j'ai vu quelques images.
Oui, je connais, j'ai même regardé.
Non.
Oui, j'ai regardé une fois...
Ils ont également exprimé leur avis sur cette discipline.
Ne serait-ce que physiquement, ne serait-ce que sur l'orientation, sur l'énergie, tout ça. Non, mais c'est... Moi, je suis bluffé, quoi.
Alors, je trouve que ça m'impressionne plus, parce qu'effectivement, le cécifoot, je sais qu'il y a une clochette dans le ballon, il y a les autres joueurs qui ont aussi des clochettes, et qui... Enfin, je trouve que c'est hyper... admirable en fait, et que en fait il n'y a pas de barrière, c'est juste il faut s'adapter. Et souvent, j'ai vu des reportages où des vrais joueurs de football, en fait, étaient perdus si on leur enlève leurs yeux, quoi. Donc, je trouve ça vraiment génial.
Suite à ça, je leur ai demandé si le handisport changeait le regard sur le handicap.
Franchement, oui. Parce que, pour parler très sincèrement, lorsque j'ai assisté à ces compétitions, et j'ai vu la performance, et j'ai pas vu le handicap. Voilà.
Ça les met en lumière ?
Oui. Oui, parce que quand on voit des personnes avec des handicapés qui parfois sont très invalides et qui font du sport comme ça avec leur volonté, ça fait réfléchir que ouais.
David Vaz, quelques mots sur ce reportage.
Alors oui, je voulais revenir sur cette première partie parce que en fait, en parlant du coup, en interrogeant du coup toutes ces personnes, il était intéressant de revenir sur le fait que les rares personnes qui m'ont répondu non par rapport au handisport, en fait, l'ont répondu de manière sémantique. En fait, tous connaissent le handisport sans savoir vraiment, quel est le mot. Ils ont tous déjà vu, entendu parler que bien sûr des handicapés faisaient du sport avec leur propre discipline. Et j'ai trouvé ça intéressant que de revenir là-dessus. Voilà.
Si vous voulez aussi, bien sûr, discuter sur déjà ce qu'on vient de voir, soit Daouda, soit Raphaël, enfin, qui veut.
Je voulais juste revenir sur, par exemple, votre rapport avec les Paralympiques, vu que ça a été très très diffusé. Est-ce qu'il y a eu un avant et après les Paralympiques par rapport à votre sport, dans votre discipline?
Les Jeux paralympiques ont eu un réel impact sur le cécifoot, comme ça a été évoqué durant l'émission. Et avant les Jeux, c'était des séances d'entraînement chez nous déjà à Bondy, parce qu'il faut. Enfin, je sais pas si tout le monde a l'information, mais à Bondy, dans mon club, on a 4 joueurs de cécifoot. Qui font partie de l'équipe de France de cécifoot et qui ont eu la chance de participer aux Jeux paralympiques. Et avec ces joueurs, en fait, on avait des séances d'entraînement beaucoup plus intensives, des séances qui étaient beaucoup plus intéressantes. Et bon, ça l'est toujours, mais et avant les Jeux, ça avait quand même ce goût. Des jeux qui vont être organisés par la France et c'était des sensations très bonnes à vivre et c'était aussi une expérience pour les jeunes joueurs et donc c'était très intéressant. Et après les Jeux également, on a ressenti cette fierté car c'est la France qui a été médaille d'or. Et exactement, et donc c'était très festif, enfin l'ambiance était bon enfant, et moi personnellement j'ai eu la chance d'assister à cette finale. Il y avait de la ferveur dans le stade, il y avait de l'ambiance, il y avait, non mais c'était incroyable, c'est grâce à cette finale, le cécifoot a été davantage connu par le public français, par le monde entier. Et donc les sponsors, les autorités, tout le monde est en train de s'intéresser à ça et c'est quelque chose qui est très très plaisant et qui incite à l'épanouissement quoi du sport, du handisport.
Et c'est vrai que la médaille d'or quand même remportée par la France a été quand même un événement, ça a fait évoluer le regard, ça a aussi beaucoup plus médiatisé le cécifoot qu'il l'était avant, parce qu'avant c'est vrai qu'on n'en entendait pas forcément beaucoup parler. Et du coup, pour continuer, on est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, les handisportifs, ils sont plus vus comme des personnes inspirantes. Alors ma question est la suivante, pensez-vous que la société est réellement prête à voir les athlètes en situation de handicap comme des sportifs à part entière et non comme, entre guillemets, des personnes inspirantes?
Pour moi, personnellement, on doit être vu comme des sportifs à part entière. Bon, après, l'inspiration, elle est subjective. En fait, je pense que les gens, comme en fait, on est vu avec le handicap, on pense que c'est beaucoup d'efforts qui sont fournis, c'est qui est le cas, mais pour moi, c'est en fait, c'est on fait du sport comme tous les autres et du coup, bon, c'est en fait, c'est, ça revient à la même chose quoi. Quant à moi, en fait, c'est on fait du sport comme tous les autres et pour moi, il faut rester sur cette gamme, c'est-à-dire sur cette cadence, en fait, à nous considérer comme des sportifs à part entière. Mais bon, inspirant, oui, bon, ça peut être, mais pour moi, on est sportif et c'est déjà bien, en fait, parce que quand on est en situation de handicap, si l'accent est tout de suite mis sur le handicap. On ne voit pas le côté loisir, on ne voit pas trop comment est-ce qu'on on va réussir en fait à faire ça. Bon, si on arrive à relever ce défi, c'est quand même quelque chose qui est superbe. Et donc c'est oui, pour moi c'est enfin on est des sportifs comme tous les autres.
Oui, c'est sûr que avant tout, vous êtes des sportifs comme tout le monde. C'est vrai que c'est plutôt ce regard qu'entre guillemets la majorité de la société a. Et évidemment, faut enlever ce regard-là à tout prix parce que vous faites du sport comme tout le monde et voire même mieux, c'est encore plus impressionnant.
Et si ça inspire, franchement, c'est quelque chose qui est plaisant, qui nous fait plaisir. Et on espère que ça va continuer en fait sur cette lancée, c'est-à-dire inspirer davantage. Et surtout à faire savoir aux uns et aux autres que faire du sport en étant en situation de handicap, c'est bien possible, quoi.
Ça, c'est du message. David, nous avions coupé votre reportage en deux parties. Il est temps de reprendre la deuxième partie, justement.
Concernant la médiatisation du handisport, un consensus s'est révélé lors du micro-trottoir.
À part aux Olympiques, ça existe, on n'entend pas du tout parler. Hein, donc,
bien sûr que non, le handicap de façon générale, de toute façon, mais effectivement, le handisport, on n'en parle pas assez. Il y a beaucoup de jeunes, je pense, dans les hôpitaux qui deviennent handicapés par accident, par maladie et qui se morfondent en fait en disant ça y est, ma vie est finie. Mais il y a des sports, il y a des adaptations. Ce serait bien aussi qu'il y ait un peu plus de financement public là-dessus, parce que quand on voit ça marche aussi dans certains sports sans handicap. Hein. Les sponsors sont plus attirés par des gens en pleine forme et en vigueur que par des handicapés et tout ça. Donc ça aussi, il faudrait que ça change un peu.
Même si la plupart pensent que le handisport est sous-représenté dans les médias, j'aimerais ajouter quelques changements qui se sont opérés depuis peu. Tout d'abord, la chaîne privée Beansport, qui propose de nombreux contenus dédiés ainsi que la diffusion de compétitions. On peut également citer la chaîne publique France Télévisions qui parle de handisport grâce à leur émission Champion d'exception, consacrée au portrait d'un para-athlète et de sa discipline. Mais aussi Handisport TV qui ne parle que de handisport, vous vous doutez bien. Sur ce, j'aimerais conclure sur l'envie qu'ont eu mes interviewés de voir plus de handisport.
Mais c'est vrai que j'aimerais qu'on ait un peu plus sur les réseaux sociaux, notamment sur les comptes de fédérations diverses et variées, qui ait autant de place pour le handicap que pour les non-handicaps.
Je ne vais pas dire que j'aimerais plus en voir, mais je pense qu'en tout cas, pour le regard de la société, ça peut être intéressant.
David Vaz, quel est votre bilan ?
Le bilan, c'est que déjà, il y a un vrai effet post-paralympique, parce qu'avec toutes les personnes que j'ai interrogées, ils m'ont tous parlé des paralympiques, sans exception. Et que ça a été un vrai déclencheur. Et on a quand même, je trouve, une certaine attente, ou en tout cas une certaine envie d'en découvrir quand même plus dans les médias traditionnels. Voilà.
Et bah, c'est super.
Moi, j'avais juste une dernière question avant de clôturer l'émission. Question un petit peu bateau, mais c'est quoi vos objectifs personnels ou alors collectifs pour la suite de votre carrière ?
Objectifs personnels et collectifs. Déjà, pour ma carrière, en fait, je pense, j'aspire à remporter en premier le championnat national de France de cécifoot. Ça, c'est mon premier objectif. Et également la Coupe de France de cécifoot. En fait, si j'arrive avec le club à remporter ces deux titres, je dirais que j'aurais atteint l'un de mes plus grands objectifs
vous
sportifs.
Vous serez
comblé. Exactement.
Ben, on vous le souhaite.
Merci.
L'émission arrive à son terme. Merci de nous avoir écoutés. Merci à l'INA Campus et au lycée Évariste Galois. Merci à notre invité Daouda Gassama. Et merci également à notre équipe technique, Mathilde Chollet, Isaac Herman, Clara Salaz. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée et au revoir de la part de toute l'équipe.